Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invitée. Ce midi, elle est artiste plasticienne. Depuis plus de 50 ans, ses œuvres mêlent peinture, photographie, broderie, collage, écriture, sculpture, mais surtout assemblage. Et c'est peut-être cela, sa marque de fabrique, mettre en relation, agencer, fusionner des objets du quotidien avec des choses vues, lues ou vécues, une observation du monde qui passe ces dernières années par le dessin. Son univers est à découvrir ou redécouvrir jusqu'au 11 mai prochain à la galerie Marianne Goodman à Paris, dans une exposition intitulée « Laissez aller ».
Bonjour Annette Messager.
Bonjour.
Bienvenue dans les Minutes Culture.
Alors ma première question, Annette Messager, c'est bien sûr sur ce titre énigmatique de cette exposition. Vous me voyez venir, pourquoi laisser aller? Qu'est-ce que vous mettez derrière cette expression?
Ça veut dire que c'est une sorte de promenade ou de vagabondage. Habituellement, normalement, non, normalement, il n'y a pas de normal. Habituellement, je travaille par série, ce qui est réconfortant, parce que pendant un an et demi, par exemple, je travaillais sur des sleeping bags que j'ai pliés, j'ai fait sortir des éléments
de couchage.
Voilà, des sacs de couchage. Tandis que là, ça partait un peu dans tous les sens. Et... Alors, c'est plus angoissant, mais voilà, c'est comme ça.
On découvrait effectivement des œuvres qui n'ont pas de rapport particulier entre elles, en tout cas qui sont effectivement réalisées depuis quelques années. Ce sont des œuvres récentes, certaines qu'on a pu déjà voir quelque part, ou certaines qui sont exposées de façon inédite. Mais vous jouez sur cette idée un peu d'espièglerie, de ne pas nous expliquer, de ne pas nous donner toutes les clés. Donc quand vous dites vagabondage, c'est ça, vous nous invitez véritablement à nous balader, à nous immerger ainsi dans votre univers.
Oui, et en plus j'aime bien que des éléments s'opposent, comme des petites effigies qui sont noires, des petites effigies humaines, qui ont été influencées. J'avais participé à une exposition au musée du Quai de Branly, et le musée était fermé, j'ai passé l'après-midi à le visiter. C'était formidable, et je suis rentrée chez moi, et voilà, j'ai fait des petits personnages humains, un peu influencés par cette visite, et puis qui après se sont, voilà, au fil de leur vie, se sont transformés. Mais ces petites effigies, comme ça, très hiératiques, sont en opposition aux dessins qui sont plus organiques, qui sont plus joyeux, enfin qui sont plus, voilà, où je me laisse aller, je sais pas trop ce que je vais faire, je sais pas trop où je vais aller, enfin je dis ça mais c'est pas tout à fait vrai quand même.
C'est la première œuvre qu'on découvre, parce qu'elle est gigantesque, dans cette première salle de la galerie Goodman à Paris. Effectivement, elle fait 7 mètres de large, si je ne dis pas de bêtises. Et on a ces petites figurines qui sont donc petites. Non, elles sont d'ailleurs d'une taille moyenne, qui sont suspendues, avec ces dessins qui sont aussi confrontés, justement. On est dans l'idée, tout à l'heure, je parlais de marque de fabrique, d'assembler les choses, les dessins, les matières, la structure aussi. C'est une façon de rentrer dans votre univers, comme je le disais tout à l'heure, cette première œuvre qui s'appelle « En même temps ».
Oui, oui, c'est la plus ancienne, je pense, enfin, oui, de 2000, je ne sais pas combien d'ailleurs, de l'exposition, mais qui... Toutes ces choses montrées, là, n'ont jamais été montrées à Paris. Et donc, oui, il y a cette grande chose sur le grand mur de la galerie. Et après, d'autres éléments avec des filets, des dessins recouverts, etc. J'aime bien, j'aime pas la pureté, j'aime au contraire le mélange, voilà, presque la saleté, qui est souvent recouverte par des filets noirs. Qui à la fois ces filets protègent, mais enferment aussi.
Et on retrouve effectivement plusieurs œuvres avec ces filets, et notamment les personnages dont vous avez parlé aussi, qui sont assemblés dans d'autres œuvres avec ces filets. On va reparler évidemment des œuvres que vous nous proposez de découvrir, Annette Messager, mais on va d'abord écouter ces premières archives.
Je préconise la réhabilitation des génies de café. Parce qu'on avait l'habitude dans le temps de se moquer énormément des gens qui qui sont tout le temps en train de discuter dans les bistrots, qui ont de grands projets qu'ils ne peuvent pas réaliser. Oui. Alors que maintenant, nous commençons à comprendre dans notre société que tout le monde est un génie de café, que pratiquement personne ne peut réaliser toutes les idées qu'il a. Hein. Nous vivons dans un système un peu clos, un système qui est basé sur, moi je crois, sur la prostitution. L'autre truc qui en fait partie, c'est l'hommage au raté. Il y a des années que je maintiens que les plus importants dans l'art, ce sont les ratés. Et au moins, il y a quelque chose en leur faveur. Je ne vais pas développer ce point, parce qu'on m'a accusé d'un tas de choses. On me dit que, bien sûr, moi, je suis un raté, donc j'essaie de me rendre hommage à moi-même. Mais surtout, dans l'idée, dans le contexte je suis contre l'idée d'admiration, au moins, personne n'admire les ratés.
Annette Messager, vous avez peut-être reconnu l'artiste franco-américain Robert Filliou et son humour, puisque effectivement il se moque de lui-même, beaucoup d'autodérision, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'il nous dit, c'est l'idée du raté. Et c'est quelque chose que votre vision aussi dans la pratique du dessin, notamment, quand on est artiste plasticienne comme vous, on a le droit de rater.
De toute manière, on ne sait pas soi-même si c'est raté ou pas. C'est pourquoi c'est les autres qui jugent que c'est raté. Peut-être que moi, j'ai fait un dessin que je trouve très très bien et puis que les gens n'aiment pas du tout. Alors qu'est-ce que c'est que le ratage ? J'en sais rien, moi.
Vous avez dit tout à l'heure, Annette Messager, que vous-même, vous ne saviez pas où vous allez quand vous commenciez une œuvre. Enfin, mais vous avez semblé après hésiter en disant « j'ai quand même un peu une petite idée ». C'est quoi cette idée qui vous guide et justement qui pourrait peut-être éclairer sur ces ratages ? Quand on veut aller vers quelque part et qu'on n'y arrive pas, là, il y a un ratage clairement pour l'artiste.
Je ne sais pas, j'aime bien cette phrase de Kusai, qui est pour moi le plus grand dessinateur au monde. On lui disait, mais pourquoi, comment vous avez pu faire ce dessin extraordinaire en 30 secondes ? Et il avait 70 ans, il dit, mais ça fait 70 ans que je le prépare. Et en fait, on ne sait pas d'où ça vient, ces choses qu'on a envie de faire, de manque, de ratage sans doute, ou d'envie d'être autre, d'être différent, de changer de nature, ce qui n'est pas vraiment possible, mais enfin d'aller ailleurs. Et à chaque fois, j'ai envie de faire un petit peu un pas de côté.
Donc c'est ça, quand vous dites « je sais où je veux aller », cette destination n'est pas forcément précise, mais c'est un ailleurs.
Oui.
Mais ce serait quoi un ailleurs pour vous ?
Mais je ne sais pas, justement, s'il est ailleurs et qu'il me porte. Mais quand je disais tout à l'heure que cette visite au Quai de Branly m'a amené ailleurs. En même temps, j'ai retrouvé énormément de choses que j'aimais ou que je pensais avoir en moi. Mais en même temps, c'était un ailleurs. Je crois que c'est ça aussi. Par exemple, quand je vais au café, c'est un ailleurs. Il y a des gens au bistrot qui racontent leurs histoires, qui lisent Le Parisien. À la fois, on est tous, on vit dans le même endroit, presque, mais c'est un ailleurs, et ça apporte beaucoup.
Il y a tout de même, Annette Messager, vous, derrière un dessin. Donc, quand vous terminez votre dessin, tout à l'heure, Robert Filliou disait « les ratés permettent d'échapper à l'admiration, peut-être à l'idée de sacrer aussi des œuvres qu'on peut dessiner, par exemple. » Donc, s'il y a quelque chose que vous estimez raté, est-ce que c'est possible et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Je déchire. Si vraiment ça ne me plaît pas du tout, pour un dessin, je le déchire. Oui, c'est pas difficile. Mais quelquefois, j'ai regretté. Je me suis dit, mais moi, j'aime pas, mais peut-être que... Mais non, je n'ai pas regretté, c'est comme ça. Hein. On passe à autre chose.
Le dessin a pris une place importante dans vos œuvres depuis une dizaine d'années, en quelque sorte, même si on va y revenir. Vous dessinez depuis presque toujours, si je puis dire. Comment vous dessinez ? Qu'est-ce que ça vous permet aujourd'hui de faire, le dessin, puisque vous dessinez de manière... d'un geste rapide, un peu comme tout à l'heure vous l'avez expliqué. Il faut que ce soit effectivement presque immédiat, instantané.
Oui, les dessins, c'est un peu comme des fantômes, des apparitions, comme ça. Donc, je le prépare dans ma tête, ou bien sur des petits post-it, mais pas chez moi. C'est souvent mieux pas chez moi. Ça peut être dans le métro, ça peut être au café... où je suis justement plus libre que chez moi, où plein de choses m'entourent, où je suis accaparée par des livres, hein, tandis que en dehors, voilà, donc j'ai des post-it, j'écris un mot, je dessine un truc, et puis après je le reprends ou je le reprends pas, ou je le reprends différemment, ça certainement. Mais c'est un ailleurs qui me ramène chez moi.
Le dessin.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, non, d'ailleurs, parce que j'ai oublié.
L'idée, c'est, au final, avec ce dessin-là rapide, avec cette façon de faire, effectivement, où vous préparez. Tout à l'heure, vous disiez dans l'exposition, j'aime bien le sale. Moi, ce qui m'a surpris dans votre exposition à la galerie Goodman, c'est par exemple, les dessins, ils sont punaisés au mur. Ils ne sont pas encadrés. Mmh. On voit le papier qui est déchiré, c'est pas bien découpé. Il y a quelque chose voilà, peut-être d'instantané, d'organique, de naturel, comme si l'œuvre d'art était presque un objet du quotidien.
Ben moi, en tous les cas, un dessin, c'est revenir enfant. C'est justement... En plus, je suis gauchère contrariée, c'est-à-dire que j'écris de la main droite. Mais en fait, je dessine que de la main gauche. Mais quelquefois, je trouve que je deviens habile, je fais une série, donc je me sers de la main droite qui dessine mal. Il faut qu'il reste un truc maladroit, un peu pas bien fait, pas bien fini. Et je trouve que ça ouvre plus l'imaginaire.
Je disais, vous expliquez pas vos dessins. Il y a pas de discours derrière les œuvres que vous faites. Vous nous laissez, nous en tant que spectateurs, justement libres d'imaginer, libres d'interpréter ce que vous avez dessiné, ce que vous avez sculpté, assemblé. Ce côté un petit peu mal fait. Qu'est-ce que ça apporte? C'est une façon de dire aussi au spectateur, à celui qui découvre votre œuvre. Voilà, je suis comme vous. C'est une porte d'ouverture.
Oui. Je vais vous raconter une anecdote très ancienne. Mon père avait un ami qui était peintre, mais qui gagnait pas beaucoup d'argent. Il venait l'été à Berck, où j'habitais. Et donc, pour lui donner un peu d'argent, sans comme ça lui faire la mendicité, il disait, vous allez lui donner des cours de dessin.
Vous?
Oui. Et il disait, mais surtout, ne lui apprenez rien, ne la déformez pas. Donc, ce monsieur me mettait des fruits, des fleurs, etc. Puis il s'endormait à côté de moi. Ne lui apprenez rien.
Ça veut dire que vous n'avez pas appris à dessiner?
Non, j'ai pas appris à dessiner. Non, je crois que ça, je sais pas si ça s'apprend d'ailleurs. En tous les cas, l'art ne s'apprend pas. Hein. J'étais prof pendant longtemps aux Beaux-Arts. Ça ne s'apprend pas, hein, d'être...
Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on est artiste? Ou ça veut dire que tout le monde peut l'être? Vous dodelinez, je le dis pour les auditeurs, vous dodelinez.
Si on a envie d'être artiste, et si vraiment, on pousse ça, et on cherche, on devient artiste. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une culture. Je vois écrit France Culture partout, là, derrière moi.
Oui.
France Q, France Q.
Ouais, même sur votre micro, il y a France Q.
Oh mon Dieu. Mais non, je veux dire que si vraiment on a envie de faire quelque chose, ben on recommence et puis ça vient. Et parce qu'il y a quand même des techniques à savoir si on veut faire un peu de sculpture, mais ça, on l'apprend forcément.
Mais comment on sait, par exemple, si on se dit qu'on a envie d'être artiste, que ça vaut le coup de l'être, que ce qu'on a envie de dire ou peut-être d'exprimer ou de créer, c'est important, ça vaut le coup d'être montré. Il y a beaucoup de gens peut-être qui se disent qu'ils ont envie de quelque chose, mais qui se disent qu'ils valent rien en fait, qu'ils n'ont pas les...
Bah d'abord, avoir envie de le montrer, avant d'avoir envie de le montrer, il faut le faire. Et déjà, s'ils le font, s'ils essayent de le faire, le montrer, c'est encore autre chose. C'est un autre travail, si je puis dire. Il faut trouver un endroit pour le montrer... le faire partager, ça c'est encore autre chose.
Et puis il faut qu'il soit aimé, d'une certaine manière, validé, non? Enfin,
validé, je ne sais pas. Aimé, oui, il faut de l'amour partout.
Annette Messager, dans votre vagabondage dans cette exposition, il y a aussi l'idée du vagabondage de l'esprit, de l'observation, de référence à des images qui parlent peut-être à tout le monde et que vous réinterprétez, en tout cas dont vous vous emparez. Et là, je pense par exemple à cette œuvre qui s'appelle Iconique, qui est composée de dessins qui rappellent des photographies qu'en décrivant, évidemment, elles vont venir à l'esprit quasiment de tout le monde. C'est le visage d'Albert Einstein, la silhouette de Charlie
Chaplin,
qui tire la langue, oui, la fameuse, Marilyn Monroe et sa robe soulevée, la figure de Che Guevara, qui a été diffusée dans le monde entier par Andy Warhol. Ces portraits de notre mémoire collective, comment ils s'insèrent justement dans une création, dans quelque chose que vous voulez... dont vous voulez vous accaparer, sur lesquels vous allez placer d'ailleurs ce fameux filet.
Ben oui, je me disais quels sont pour les gens de ma génération, en tous les cas, les photos ou les événements qui restent. Il y a par exemple cette petite fille vietnamienne qui est brûlée, qui court toute nue. Je ne sais pas si pour des gens beaucoup plus jeunes, ça leur parle aujourd'hui, je ne sais pas. Mais pour moi... C'est aussi iconique que Marilyn Monroe sous une bouche de métro et avec, alors que c'est dégoûtant parce que c'est deux images vraiment opposées. Et l'une c'est la souffrance et l'autre c'est au contraire un peu le voyeurisme, le sexe. Et c'est notre culture, c'est ma culture en même temps. Donc je les ai assemblées. Il y a Che Guevara aussi qui est une image iconique. Mais elles n'ont rien à voir, ces 4-5 images n'ont rien à voir entre elles, quoi. Et je les lis parce qu'elles sont liées par ce filet.
Ce filet qui... à quelle utilité ? Est-ce qu'il y a, cette idée de d'enfermement, effectivement ?
Oui, il est noir.
Il est noir, c'est un filet qui, évidemment, ressort, puisque il est installé sur un mur blanc. Il y a l'idée d'enfermement, d'emprisonnement, de ne pas pouvoir se détacher de ces événements aussi marquants, de ces personnalités marquantes. Il y a quelque chose aussi de subir aussi
oui.
Tout ça, cette mémoire.
Bah, notre mémoire, on l'a subie, oui. J'ai toutes ces images en tête, vous aussi, et on peut pas les retirer. On est enfermé avec ça.
Et donc l'art, pour vous, c'est aussi cette idée, peut-être en faisant cette œuvre, de vous en détacher, de passer à autre chose. Comment vous voyez cette transmission avec les gens qui viennent voir vos œuvres?
Ah ben ça, c'est encore autre chose. Le public qui regarde les œuvres, il y a des publics de tous les âges, donc de différents sexes. Donc je pense qu'on ne garde pas la même chose. Comme a dit Duchamp, c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Peut-être pas totalement, mais en fait, c'est vrai. Peut-être qu'un garçon, une fille ne regarde pas, n'est pas intéressé par exactement les mêmes choses, les mêmes sujets, et les gens d'âge différents. Donc... il faut accepter tout ça. Et moi, je le fais avec ce que je suis, ce que je reste. Je ne peux pas me changer, c'est comme ça. Et avec ce que j'ai en mémoire et avec ce que j'entends, les événements, ce qui se passe autour de moi aujourd'hui.
Giacometti est peut-être l'artiste qui, le mieux et le plus consciemment, a fait sentir que le vide autour d'une œuvre faisait partie de l'œuvre. Et j'allais dire que l'exposition fonctionne sur la distance, ce qu'il voulait être la distance, qui est celle probablement psychologique entre les êtres, mais qui est plus profondément, comment dire, une vision, ou plus exactement le résultat d'une perception. C'est-à-dire qu'il est convaincu, et tout son travail était là, puisqu'au fond son travail est modeste dans son énoncé, il a cherché à saisir le réel, ce qui est un énoncé qui avait tellement déconcerté les surréalistes,
qu'il l'avait viré.
Mais en fait, la distance est aussi de saisir le réel tel qu'on le voit. Et si je dis ce truisme, ça paraît très élémentaire. Mais en général, on saisit le réel tel qu'on le sait, tel qu'on le connaît, ou éventuellement tel qu'on l'a touché quand il s'agit d'un sculpteur.
C'était la voix de la conservatrice et historienne de l'art française Suzanne Paget. C'était le 9 décembre 1991 sur France Inter.
Annette Messager, Suzanne Pagé, vous avez travaillé avec elle, notamment, puisqu'elle vous a exposé à l'époque où elle était au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Il y a plusieurs choses dans cette archive. Il y a évidemment cette confiance que vous avez tissée avec elle. Tout à l'heure, on parlait de montrer ses œuvres, de trouver des endroits où les exposer. Peut-être la deuxième démarche, en tout cas après la création d'une artiste comme vous. Cette démarche de s'exposer, de montrer ce qu'on fait, ce qu'on a pensé, ce qu'on a réfléchi. C'est une démarche évidente pour vous en tant qu'artiste, ou alors c'est venu ensuite ?
Ensuite, je ne sais pas ce que vous voulez dire par ensuite, à quel âge, mais comme j'ai toujours dessiné, fait des trucs dans ma chambre... je pensais pas à des expositions à ce moment-là. Je dessinais ce qui était. Je me disais, qu'est-ce qui est autour de moi? En fait, c'est mes mains, mes pieds. Alors, je faisais que dessiner mes mains et mes pieds. Et je continue. J'ai pas beaucoup changé ma manière de travailler, d'ailleurs. Mais oui, Suzanne Pagé, je me souviens. Elle ne s'en souvient pas, mais ma première exposition, elle m'a dit, si tu continues comme ça, je te ferai une exposition tous les 10 ans. Moi, j'ai pas oublié. Et en fait, il s'est avéré qu'elle m'a fait une exposition tous les 10 ans.
Donc pendant... elle a tenu sa promesse.
Ouais.
Elle parle de Giacometti. Giacometti, vous allez nous parler de votre relation avec cet artiste-là. Mais Giacometti, elle dit, il a cherché à saisir le réel tel qu'on le voit. Opposé au réel tel qu'on le connaît ou tel qu'on le sait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir le travail de Giacometti ? Est-ce que vous-même, vous l'appliquez ? On a parlé tout à l'heure de l'observation, de votre idée de vous imprégner du dehors, de ce qui se passe autour de vous aussi.
Non, moi, c'est peut-être le dehors, mais lui, c'était le vide. Le vide autour des personnes, c'est pour ça qu'elles sont très très qu'elles se réduisent de plus en plus. Il commence avec la pâte à modeler, puis ça se réduit presque à fil. Donc c'est assez différent. Je l'ai croisé. Il mangeait à la Coupole. Il mangeait toujours que des omelettes. C'était peut-être pas très bon pour la santé. Et puis il avait son atelier pas loin. Il retournait travailler. Ils buvaient beaucoup avec Beckett le soir. Et ils allaient à la Closerie des Lilas parce que c'était le seul endroit où il y avait un whisky irlandais que Beckett adorait. Et lui, il prenait le whisky, comment ça s'appelle, Johnny Walker. Donc ils se disputaient, ils disaient, mais c'est très mauvais ce Johnny Walker. Mais ils disaient, mais Johnny Walker, c'est l'homme qui marche. Effectivement, l'étiquette... C'est l'homme qui marche. Alors, on peut se demander si Giacometti a eu cette idée de l'homme qui marche.
En buvant un whisky.
En buvant, en étant un peu sous la nuit, voilà, avec Beckett.
C'est aussi simple que ça.
Peut-être, oui.
D'inventer, de créer, de trouver une idée.
C'est pas une théorie pour les critiques d'art. Hein. Ils aiment pas ça, parce qu'il faut que ce soit beaucoup plus idéologique, beaucoup plus que matérialiste.
C'est une explication trop simpliste, c'est ça que vous voulez dire ? Et ça veut dire que véritablement tout ce qui vous entoure, tout à l'heure vous nous parliez du café, de votre presque routine quotidienne d'artiste, c'est-à-dire vous vous réveillez, vous allez boire un café à l'extérieur, et ensuite vous je ne divulgue pas de choses trop personnelles, mais vous retournez chez vous pour travailler. Chez vous, c'est votre atelier, votre espace de travail, c'est comme ça que vous le considérez ?
J'appelle ça mes bases. C'est un peu militaire. Base 1, base 2 et il y a base 3. Base 1, c'est là où j'habite. Base 2, c'est un grand espace où je travaille. Et base 3, c'est une petite réserve, pas très loin. Donc, voilà, je circule là. Et puis, je vais au café aussi pour aller dans la rue. Parce que voir des gens qui marchent... J'observe beaucoup les gens, moi, dans le métro, comment ils parlent entre eux, avec leurs doigts. Moi, je parle aussi beaucoup avec mes mains. Les Français, en général, sont pas mal pour ça. Donc, j'ai besoin de regarder les autres, de voir les gens, et puis après, un peu un enfermement volontaire.
Vous avez parlé de Giacometti à l'instant, Annette Messager, et notamment sur l'idée de ce whisky avec l'homme qui marche. Et vous avez dit, mais ça doit peut-être pas trop plaire aux critiques d'art parce qu'en fait, c'est pas assez théorique, c'est pas assez. Oui. Vous avez même dit idéologique. Le problème, c'est que quand, par exemple, nous, on vous reçoit, on discute avec vous, on a aussi envie, en fait, presque d'avoir les raisons de pourquoi vous créez, pourquoi vous faites telle ou telle chose. Et c'est presque, en fait, aussi facile que de regarder dehors et de boire un whisky, en fait, c'est ça. C'est presque impossible de trouver la raison qui vous fait créer, en fait.
Bah oui, non, parce que d'abord, je ne sais rien faire d'autre.
Ça, c'est une bonne raison, déjà.
C'est une très bonne raison.
Oui, enfin, rien faire d'autre, vous savez quand même faire, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, mais de la photographie, qui a été d'ailleurs...
Oui, mais ça, c'est créé. Enfin, mais... c'est... Oui, ça fait partie de
oui,
la création.
Mais,
je ne sais pas faire la cuisine, je ne sais pas...
Même
sais...
pas une petite omelette pour
si.
Giacometti.
Si, une omelette. Ah, pour Giacometti, j'aurais tout fait.
Un bœuf bourguignon.
Mais il avait une femme qui s'appelait Annette, et sa mère s'appelait Annetta. Donc, j'ai fait une exposition dans l'Institut Giacometti, où je me prends pour la troisième Annette de Giacometti, comme si j'avais vécu avec lui.
C'est qui comme artiste, Giacometti, pour vous? Il représentait quoi, au-delà de l'anecdote, là? Comment vous le considérez?
D'abord, il a arrêté un moment, parce qu'il était avec les surréalistes, et puis ça ne l'intéressait plus. Plus personne ne voulait ne s'intéresser à lui. Hein. Il est resté des années parce que ça marchait bien quand il était surréaliste, il vendait, etc. Il a tout arrêté pour reprendre des choses figuratives. Et on lui a reproché beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que ça signifie? Et il a continué. C'est ce qu'il voulait faire. Et ça, c'est formidable.
Tout à l'heure, vous nous disiez que vous ne saviez rien faire d'autre que de créer, que d'être artiste. Et du coup, c'est aussi l'une des questions que l'on se pose quand on découvre une artiste, ses œuvres, sur la durée aussi, sur la longueur. À quoi ça sert, Annette Messager? À quoi ça sert de créer?
Ça ne sert à rien, c'est ça qui est beau. L'art, ça ne sert à rien. Ce qui ne sert à rien sert à tout, si on veut. Mais justement, ça n'a pas de finalité, ça ne sert à rien.
Mais quand vous créez dans vos bases, vous vous dites ce que je suis en train de faire ne sert à rien, à personne. C'est terrible.
Non, je ne me dis pas ça. Ça me sert à moi en tous les cas, ça m'occupe beaucoup, beaucoup mes journées. Donc ça sert à remplir mes journées.
Quelle autre utilité pour vous? Il y a quelque chose de tout de même de réflexif sur qui vous êtes, sur ce qui vous a mené jusqu'ici, sur le passé, sur le présent, sur ce qui vous entoure. Là, vous pouvez pas me dire que ça sert à rien. Il y a quelque chose qui, quand même, chez vous, j'allais dire soigne, mais c'est peut-être pas le bon mot, en tout cas, qui vous apporte quelque chose.
Oui, non, soigner, c'est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que si j'étais pas devenue artiste, je pense souvent que j'aurais été une femme épouvantable. J'aurais divorcé, je sais pas combien de fois. Enfin, j'aurais...
Alors que là, vous êtes une femme bien.
C'est pas ce que j'ai dit. Là, vous exagérez un peu. Mais en tous les cas, je n'ai pas embêté trop de monde dans la vie. Mais je ne sais pas, parce que ça, c'est même plus ce que vous me demandiez, d'ailleurs.
Qu'est-ce que ça vous apporte, cette création? Si ça sert à rien, si l'art ne sert à rien, il y a tout de même un intérêt pour vous, au-delà de vous occuper.
Ben vous, c'est pareil. Est-ce que vous servez à quelque chose?
C'est une bonne question.
Oui.
Je dois répondre, moi aussi?
Oui.
Ah non, pas du tout.
Si.
Moi, je pense que je ne sers à rien non plus.
Eh ben, vous voyez, on est tous ici, sauf eux, les techniciens qui travaillent, qui font leur boulot. On ne sert à rien, alors. Et c'est pour ça qu'on est important. Parce qu'on est beaucoup plus libre quand on pense qu'on ne sert à rien. On peut aller dans tous les chemins divers. Moi, je pense qu'on est un peu un tronc, chacun. Et puis, avec des branchages, et chacun va... Et moi, j'ai des branches. Là, il y a la photo, là, il y a le dessin. Il y a peut-être... Il y a une sorte d'armature qui est un tronc. On a tous un tronc avec des chemins divers et qui s'opposent souvent, qui sont contradictoires.
Vous désirez quelque chose, monsieur?
Oui. Vous êtes la patronne?
Mais oui.
Est-ce que vous pouvez me dire qui occupe la chambre du second étage sur la façade, de ce côté?
Oh, je crains de ne pouvoir vous donner un renseignement de ce genre-là. La discrétion est de règle dans notre établissement, vous savez, et je crois bien que c'est contraire à la loi. Bien sûr, aucun de nos clients ne s'en formaliserait, mais... Seigneur, est-ce qu'elle aurait fait une bêtise?
Veuillez répondre à ma question.
Je ne peux m'imaginer qu'avec une figure...
Je vous prie de me dire son nom.
Valdés, mademoiselle Valdés. C'est une espagnole.
Carlota Valdés?
Oui, c'est ça. C'est un bien joli nom et qui lui va à merveille.
Depuis quand loue-t-elle cette chambre?
Oh, ça peut faire 2 semaines. Elle doit régler sa note demain.
Est-ce qu'elle y passe la nuit, quelquefois?
Non, elle ne vient que dans la journée, seulement 2 ou 3 fois par semaine. Vous savez, je ne pose pas de questions, surtout aux gens qui se tiennent bien. Mais j'avoue que je me suis déjà...
Ne lui parlez pas de ma visite quand elle redescendra, je vous prie.
Oh, mais elle n'est pas venue aujourd'hui.
Alors, attends, je viens de la voir entrer dans l'hôtel il y a à peine 5 minutes.
Vous vous trompez, elle n'est pas venue de la journée. Je l'aurais forcément vue. J'ai pas bougé d'ici, j'étais occupée à mettre de l'huile d'olive sur mes plants de verre.
Un extrait de Sueur froide d'Alfred Hitchcock, c'était en 1959.
Alfred Hitchcock, il vous a inspiré à une certaine époque, Annette Messager, dans votre façon de travailler, de fragmenter.
Surtout dans le cinéma, il y a des gros plans. Ça, c'était une découverte pour moi. Je travaillais rue d'Ulm à l'école des arts décoratifs, mais il y avait aussi la cinémathèque à l'époque, dans la même rue. Donc, je n'allais pas beaucoup à l'école des arts déco, mais j'étais tout le temps au cinéma. Je me souviens, Warhol, on m'avait dit que c'était un artiste très, très important. Il y avait le film L'homme qui dort, qui ne bouge pas pendant 4 heures. Je suis restée là, je me suis dit, il va se passer quelque chose.
Non,
c'est rien passé. C'était la durée, le temps qui comptait. Voilà, mais le cinéma, c'est très, très important pour moi, oui.
Ça a permis quoi? Ça vous a permis de notamment travailler la photographie ou alors pas
oui.
vraiment de rapport à ça?
Ah, si, ça a des rapports avec la photographie, avec les fragments de corps, avec les gros plans de corps, le noir et blanc. Oui, c'est très important.
Ça permet quoi de fragmenter, de découper un corps, par exemple? On retrouve dans l'exposition, notamment à Paris, ces fameuses mains. On retrouve beaucoup de parties du corps, effectivement, dans vos œuvres. Ça rappelle quoi en vous?
C'est une sorte de géographie amoureuse pour moi, de fragments amoureux. Par exemple, on ne dit pas « j'ai mal à mon corps », on dit « j'ai mal au ventre », « j'ai mal aux dents », etc. C'est toujours par fragments, on fragmente son corps.
Comment est-ce que aujourd'hui vous regardez en arrière? Je ne sais pas si vous considérez que vous avez une carrière d'artiste. Si vous parlez de travail, on a dit tout à l'heure que c'était plutôt quelque chose de très quotidien, que vous saviez faire que cela. Comment est-ce que vous revenez en arrière et vous regardez dans les années 70 une femme artiste qui s'impose dans des milieux aussi qui sont très très masculins? Aujourd'hui, vous vous dites, pour une femme, c'est plus facile de devenir artiste qu'il y a quelques années en arrière?
Je pense que oui, quand même, les choses s'arrangent, parce que dans les années 70, c'était assez difficile. Bon, le nombre de fois où j'ai entendu « mais la création d'une femme, c'est la maternité », etc., j'entendais ça. Et on posait la question, alors qu'on ne pose jamais ça à des mecs, « est-ce que vous voulez avoir des enfants ?» Un homme, on ne lui demande pas ça. Donc ça, c'est un peu opprimant. Mais plus, c'est pourquoi je me suis donnée. Puis en plus, oui, j'aimais bien et j'aime toujours passer de matériaux différents, d'une broderie, un dessin, une photographie. Et quand j'ai commencé comme ça, on me disait, mais tu sais, il faut faire toujours la même chose hein, pour qu'on te reconnaisse. Alors toi, tu utilises plein de matériaux différents, ça ne marchera jamais pour toi. Et je me suis donné des appellations différentes, Annette Messager collectionneuse, Annette Messager truqueuse, Annette Messager femme pratique, parce que je ne suis pas vraiment, Annette Messager artiste, etc. Pour non pas justifier, mais disons que j'avais envie de différentes identités, que ces identités parfois se mélangent. Aujourd'hui, elles se sont réunies, oui.
Oui, quelque chose qui me questionne depuis tout à l'heure, Annette Messager, c'est que vous avez parlé de cette anecdote de quand vous étiez petite avec cette amie qui était peintre et votre père lui a dit donc ne lui apprenez rien. Vous avez parlé là des arts déco en disant que vous y étiez jamais. Vous avez été quand même professeur aux Beaux-Arts.
Oui.
Qu'est-ce que vous leur disiez à vos élèves?
Parfois, c'est difficile, hein, parce que je regardais leur travail. Il fallait discuter par rapport à ce qu'ils font.
Et qu'est-ce que vous leur disiez à ce moment-là ?
Ça apprend à parler, d'ailleurs, parce qu'il faut trouver des choses à dire. Ça apprend. Ça. Ben, on trouve, on essaye de faire parler. C'est pas vraiment, quand ils sont jeunes, c'est pas vraiment ce qu'ils montrent. Mais la curiosité qu'ils ont, l'intérêt qu'ils ont, c'est ça qui est important. Donc, c'est toujours pas très bien, ce qu'ils font. C'est très très rare quand... Sauf justement ceux qui vont pas, vous me parliez de cette anecdote avec mon père et les gendarmes bruts, ils font des choses formidables, mais ils n'ont pas besoin, surtout pas d'aller dans une école et où ils n'apprendraient rien. Les gens qui sont un peu comme ça, des outsiders, eux, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Une femme comme Aloïse, elle a toujours dessiné, elle a toujours fait des choses extraordinaires. Voilà.
Donc là, si aux plus jeunes qui voudraient se lancer dans l'art, on en a parlé aussi au début, vous leur dites aussi, n'apprenez rien, n'allez pas aux Beaux-Arts.
Non, je ne leur dis pas, là, n'allez pas aux Beaux-Arts, parce qu'au contraire, c'est un lieu de rencontre de gens du même âge. Donc ça, c'est important, qu'ils se voient, qu'ils aillent au cinéma ensemble, qu'ils baisent ensemble, pas, mais qu'ils discutent ensemble. C'est ça qui est important.
Donc c'est moins les profs qui sont importants.
C'est beaucoup moins les profs.
En fait, il faudrait des écoles sans professeurs.
Oui.
Merci beaucoup, Annette Messager, d'être venue dans les Midis de Culture nous parler donc de vos œuvres et notamment de cette exposition Laissez aller. C'est à la galerie Marianne Goodman à Paris jusqu'au 11 mai prochain. Et vous allez partir, c'est cet été que vous partez exposer en Chine, c'est ça ?
Oui, à Shanghai.
Qu'est-ce que vous allez leur montrer ? Vous savez déjà ce que vous avez déjà en tête ce que vous allez montrer ou pas encore ?
Oh ben, vous savez, il y a une censure en plus là-bas, hein. Donc tout est contrôlé. Le moindre dessin, le moindre si un utérus, je ne sais pas si c'est bien. Enfin, tout est contrôlé. Donc oui, c'est compliqué. Vous savez, c'est très grand le lieu, donc c'est une rétrospective. Et j'en fais pas mal à l'étranger.
Vous ne pourrez pas vous laisser aller dans le choix, le choix de vos œuvres.
Pas tout à fait.
Pour finir, Annette Messager, nous avons choisi deux chansons. L'une sur les peluches que vous avez intégrées à certaines de vos œuvres. L'autre sur la photo, qui font une des branches de votre arbre. Souhaitez-vous écouter des deux chansons, donc soit peluche, soit photo.
Mais c'est qui ces chansons ?
Ah bah vous allez le deviner ou le découvrir en les écoutant.
Peluche ou ?
Photo.
Peluche.
That was ever enjoyed by any boy. You're not the only choo-choo train that was left out in the rain the day after Santa came. You're not the only cherry light that was left in the night and gave up without a fight. You're not the only cuddly toy that was ever enjoyed by any boy. You're not the kind of girl to tell your mother, the kind of company keep. I never told.
Cuddle Toy des Monkees pour terminer cette émission. Merci beaucoup, Annette Messager, d'être venue dans cette émission préparée par Aïssa Twendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. C'est Louise André qui réalise cette émission et à la prise de son ce midi, Noé Chaban. Merci Géraldine, à demain.
Merci Nicolas, à demain.